Vous écoutez Les mots raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adult, notamment de la saga de dystopie fantastique Absolue, parue chez Big Bang, numéro 1 des ventes jeunesse à sa sortie. Les mots raturés, c'est le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition et qui vous aide à aller des premières idées à la publication de votre roman. C'est aussi une académie en ligne avec des masterclass et des ateliers en live chaque mois. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Avant de démarrer cet épisode, je tiens à vous annoncer la création d'un quiz destiné aux auteurs pour savoir quel type d'écrivain ou d'écrivaine vous êtes. À la clé, votre chronotype, vos qualités, mais aussi plein de conseils pour pallier à toutes les difficultés que vous rencontrez en ce moment dans l'écriture de vos romans. J'espère que ça va vous plaire, le lien est en description de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie d'être accompagnée de Sophie Gliocas, autrice de la saga Les Enchantresses chez Hachette Roman. Vraiment, pour tout vous dire, je le disais à Sophie en off juste avant de démarrer, mon amie Clara Hérault me tannait, si ce n'est me harceler, je pense, on peut parler de harcèlement à ce niveau-là, pour que, un, je lise tes romans. Et d'ailleurs, je dois lui emprunter parce que elle les a sous la main, donc je dois aller lui chercher. Et que deux, je t'invite sur le podcast. Et parce qu'elle a bien raison, elle me disait tout sans cesse, mais voyons Margot, tu la suis aussi Sophie, tu vois, à quel point elle est intéressante. Viens, il faut l'inviter. Et je l'écoutais parce que Clara est toujours de bons conseils. Si tu passes par là, Clara, voilà. Et j'ai donc avec moi Sophie. Bonjour Sophie, merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté mon invitation.
Bah bonjour Margot et merci à toi de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir.
Mais le plaisir est partagé, vraiment. Comme on disait avec Sophie, là on s'est mis tranquillement parce qu'on tourne un soir. On a envie que tout se passe bien, que l'épisode se passe tranquillement. Mais avant toute chose, j'aimerais te demander si tu veux bien de te présenter. Pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, qu'elles aient voilà un aspect de toi avant qu'on passe sur tout l'épisode où on va bien sûr, bien entendu, parler de ton parcours, de ton aspect sur les réseaux sociaux, de tout ce que tu crées aussi parce que tu crées énormément de choses en plus de l'écriture de tes livres. Donc, je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais est-ce que tu veux bien te présenter rapidement?
Bah oui, avec plaisir. Donc je suis Sophie Gliocas, j'ai 29 ans, je vis à Paris. Donc je suis autrice de la saga Les Enchantresses qui est publiée chez Hachette Roman, qui est une saga de young adult fantastique. Et puis dans la vie de tous les jours, à côté de mes romans, je suis responsable de médias sociaux pour une entreprise. Et je fais plein d'autres choses, mais effectivement, je pense qu'on va revenir dessus durant le podcast.
Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que, alors on n'a pas le même âge, on a quoi? On a 4 ou 5 ans d'écart, mais je trouve qu'on a un parcours qui se ressemble beaucoup sur plein d'aspects, notamment on travaille toutes les deux dans la com, même si dans mon cas je ne travaille pas en entreprise, mais j'ai fait des études dans la com, donc je pense qu'on a des visions similaires là-dessus, donc je pense qu'on aura plein de choses à dire là-dessus au fur et à mesure de l'épisode, mais aussi on a toutes les deux commencé par la même chose, la fanfiction. On s'est toutes les deux lancées dans l'écriture de la même manière, écrire sur Internet. Et j'aimerais qu'on commence par ça, si ça te dérange pas, parce que effectivement, chronologiquement parlant, ça a du sens. T'as bercé ton adolescence, le fait d'écrire sur Internet, jusqu'à tes 17 ans, exactement, où tu publies une fanfiction Harry Potter qui s'appelle Les Années de la Terreur, qui aujourd'hui dépasse le million de vues. Félicitations.
Merci.
Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé peut-être à te lancer à cette époque et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière d'autrice d'écrire de la fanfiction? Parce que aujourd'hui, je crois qu'on va parler de ta multiprésence sur Internet et de toutes les manières dont tu communiques et ça a été vraiment ta première entrée en tant qu'autrice sur Internet.
Ah bah alors pour le coup, alors tu vois, Les Années de la Terreur, c'est la première fanfiction qui est restée en ligne, mais il y en a eu d'autres avant. La toute première qu'il y a eu, j'avais 7 ans. C'est tout jeune, hein. Et oui, en gros, moi, j'étais déjà sur l'ordinateur à 7 ans. J'étais sur des petits sites internet et j'adorais l'animé magical d'Orémi. Et j'allais souvent sur. Bah oui. Et en plus, il y a une petite fille qui s'appelle Sophie, une petite sorcière qui s'appelle Sophie, qui était ma préférée. Et en gros, il y avait une rubrique sur un site où j'allais souvent, un site de fans, qui s'appelait Fanfic, et où on pouvait envoyer en fait par mail ses chapitres. Et il les rajoutait ensuite sur le site. Et donc moi, j'écrivais des choses qui n'ont absolument aucun sens. Hein. C'était des phrases sans queue ni tête. Ça n'avait. Je me souviens que parfois, j'envoyais 3 chapitres en une journée, et ensuite le lendemain, je recommençais une autre histoire et je la repostais. Vraiment, ça n'avait aucun sens. Mais il publiait ce que je faisais, et je m'en suis souvenue très très tardivement. Je pense que c'est à peu près 15 ans après, je me suis souvenue que j'avais fait ça un jour et j'ai réussi à retrouver le site, et il y avait encore mes fanfictions en ligne. Et après, ils ont, le site a arrêté par contre d'exister, mais ils l'ont laissé très longtemps en ligne. Et donc il y avait toujours ces petites traces de moi que j'ai pas spécialement enregistrées, parce que c'était pas non plus incroyable et un chef-d'œuvre, mais je trouvais ça trop rigolo de voir que en fait ma présence en ligne dans la fanfic commence, il remonte à tellement longtemps.
Mais après, attends, attends, juste une chose qui est incroyable, c'est que ta première histoire, c'était sur une histoire de trois sorcières, quand même.
Alors, oui, elles sont très vite 4 voire 5. Même 6 à un moment, je crois. Mais oui. Ben, les petites sorcières, moi, ça me suit depuis très longtemps, hein, avec Charm, tout ça. Et donc, oui, aussi avec Magical Doremi, clairement. Il y a une grosse vibe qu'on retrouve.
Mais par rapport en plus au roman que tu as publié, quand même, je trouve que tu t'es vraiment très bien tenue à ce que tu aimais et ce que tu faisais.
Tu sais, je suis un peu mono-intérêt, tu vois, je suis un peu, voilà, j'avais ce truc avec des petites sorcières qui me collaient à la peau, parce qu'en vrai, si tu veux, Charm, je regardais à 7-8 ans, et Magical Doremi, je regardais à 7-8 ans aussi. Et donc tu vois, les deux ont vraiment fusionné et ont clairement inspiré les Enchantresses. Ce qui s'est passé, c'est que bah, pendant très longtemps, j'ai pas écrit de fanfiction, je savais, tu sais, ça m'avait même pas, comment dire, le terme fanfic à l'époque, je me pense que je devais le lire fanfic, tu vois.
Oui, je voilà. Vois.
Bah oui. Et puis ensuite, vers 15 ans, je suis retombée dedans parce que bah, Harry Potter, l'attente entre deux films, la frustration, volonté de poursuivre l'univers. Et j'ai écrit une première fanfiction Dramion qui n'existe plus. Je pense que je sais plus ce qui s'est passé, mais je me demande si à un moment j'avais pas, tu sais, violé les conditions d'utilisation de Skyblog ou je sais plus trop. Bref, et je me suis fait strike, quoi. Voilà la base. Et c'est ensuite 2 ans après où je me suis dit non, là j'ai envie de faire quelque chose de sérieux. Je vais aller sur un site spécialisé dans la fanfiction et je vais publier une fanfic. Et j'avais envie un petit peu d'être en mode, je vais faire quelque chose de complètement différent qu'on fait pas du tout, ce qui était un peu le cas à l'époque. Et je me suis dit, je vais écrire sur l'époque des maraudeurs parce que ça vraiment, il y a rien dessus. C'était pas très vrai, mais ça l'était quand même un peu. Et c'est comme ça que je me suis lancée de manière sérieuse à 17 ans avec les années de la terreur.
Et alors, comment tu t'es lancée justement? Parce que là, on a fait tout le background, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de gens qui me disent, Margot, comment on se lance sur Wattpad? Et aujourd'hui, vous savez, Wattpad, je suis pas une très grande spécialiste. Toi, quand on voit le million de vues que tu fais, et là, c'était sur ta première fanfiction qui est restée, mais même sur celle qui sort actuellement, qui est une Dramion, bah, elle engendre plus de 300 000 vues, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on peut parler de spécialiste, on peut commencer à parler de ça. Donc voilà, comment toi, tu t'es lancée à l'époque? Et qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a vu que ça a décollé?
Pour être honnête, les années de la terreur, à la base, n'étaient pas publiées sur Wattpad. C'était publié sur hpfanfiction.org, qui est un site incontournable de la fanfiction dans le monde d'Harry Potter. Et très vite, j'ai compris que si je voulais avoir des gens qui me lisent, parce que c'était vraiment mon but, je voulais vraiment écrire quelque chose qui allait être beaucoup lu, il fallait que ma fanfiction soit très longue et que je la mette à jour très régulièrement. Vraiment, c'était déjà les deux incontournables à l'époque, régularité et longueur. Donc, j'ai vraiment imaginé toute une histoire. Alors, j'avais commencé sur la 6e année, puisque j'avais vraiment cette envie d'imaginer comment les parents de Harry se mettaient en couple, puisqu'ils ne peuvent pas se blairer. Je me suis dit, bah voilà, il y a un truc à faire en termes de tension. Et très vite, en imaginant ça, je me suis rendu compte que visiblement, ils commencent un petit peu à se rapprocher durant la 6e année pour conclure durant la 7e. Donc, je me suis dit, je vais partir sur ces 2 années-là. En plus, j'avais 17 ans, donc ça correspondait aussi à mon âge. Donc ça faisait sens, il y avait plein de choses que j'avais envie de raconter hein, sur l'adolescence, plein de choses que je voulais exorciser qui se passaient dans ma vie. Et très vite je me suis dit bah ils peuvent pas être tous les deux seuls, donc j'ai aussi imaginé tout ce qui se passe avec les autres personnages, voilà, Remus, Sirius. Et puis à force en fait de faire des recherches, parce que je voulais vraiment écrire un petit peu une espèce de bible sur ce que j'imaginais qu'étaient les années des maraudeurs, en fait j'ai appris plein de choses sur plein de personnages secondaires dont on avait très peu d'éléments, et c'est là où je me suis dit je peux étoffer, je peux faire vraiment quelque chose d'hyper concret. Donc je suis partie sur ça et vraiment j'ai fait le truc hyper sérieusement avec un plan, avec des chapitres hyper détaillés en amont avant de les rédiger. Et j'ai posté très régulièrement. Les seules fois où j'ai pas posté, c'est je crois une fois où mon ordinateur était tombé en panne, et donc pendant 4 mois il y avait rien nuit. En plus c'était pile durant un cliffhanger énorme, et donc les gens, je me souviens, ils attendaient et ils mettaient plein de messages complètement enflammés. C'était vraiment trop marrant. Et à l'époque, je m'étais pas rendu compte déjà que ça avait énormément de succès, puisque sur hpfanfiction.org, on était à 400 000 lectures. À la fin, une fois que ça avait été publié, on avait atteint les 400 000, ce qui était déjà énorme. Et il y a eu plein de raisons diverses et variées qui ont fait que, à un moment, ce site, ça m'a un peu saoulée, surtout pour des raisons techniques où il y avait eu des problèmes, plutôt de choses. Et donc, j'avais découvert Wattpad entre-temps, puisque je cherchais des fanfictions un peu partout. Et pourtant, voilà, elle était terminée depuis un moment, les années de la terreur, mais j'écrivais la suite, mais j'étais un peu frustrée de cette plateforme, et j'ai tout mis du jour au lendemain sur Wattpad. J'ai pas prévenu que je partais de hpfanfiction.org, j'ai juste tout retiré, et j'ai tout mis sur Wattpad. Et à l'époque, je me suis juste dit, je la mets là pour la sauvegarder, mais en fait, même là, la suite des années de la terreur, j'ai plus trop de temps de l'écrire, j'écris vraiment ça une fois tous les 3 mois, donc je mets ça là, en attendant, je reviendrai un jour dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 6 mois, je ne me suis pas connectée à Wattpad. J'ai juste tout posté et je me suis pas connectée. Vraiment, je l'ai archivé en me disant, bah si un jour je veux la reprendre, la suite, le revers de la gloire, que ça s'appelle comme ça la suite, c'est là. Je sais où c'est et je pourrais le reprendre tranquillement. Et puis bah donc un jour, 6 mois après, à l'époque j'espérais encore trouver un moment pour écrire la suite. Je me suis dit, ce serait bien que je me replonge dedans. Et alors moi, j'ai eu, des très mauvais réflexes en tant que créatrice de contenu d'un peu tout et n'importe quoi. C'est que je laissais les choses en ligne, mais après, je les supprimais sur mon ordi. Donc pendant très longtemps, la seule version qu'il y avait des années de la terreur, elle était disponible sur ce compte Wattpad. Après, un jour, je me suis dit, je suis complètement folle, parce que si un jour, s'il y a un problème, elle disparaîtra d'Internet. Et donc, j'avais tout retéléchargé, recopié-collé sur un fichier Word. Et c'est là d'ailleurs où je m'étais rendu compte que cette fanfiction fait 800 pages sur Word. C'est
waouh. Ça attends, ça fait combien de milliers de mots ça ?
Je crois qu'elle fait 300 000 mots, un truc comme ça.
Ah ouais.
Et c'est que la partie 1, tu vois. Mais donc, tu vois, vraiment, c'était grosso modo la seule sauvegarde que j'avais de cette fanfiction. Elle était sur Wattpad et je n'y allais jamais. Je consommais pas trop sur Wattpad. J'avais donc découvert l'existence de cette plateforme, mais c'était pas spécialement là où j'allais lire mes fanfictions finalement. Et donc un jour, 6 mois plus tard, je me connecte et là je vois qu'il y a que j'ai plein de notifications. Vraiment, j'ai plein de notifications et je comprends pas au début d'où ça vient. Parce que je découvre un peu la plateforme en me disant bah c'est quoi tous ces messages. Donc après c'est là où j'ai compris que c'était les messages à chaque fin de chapitre, que les gens pouvaient liker, que j'avais reçu des MP, que j'avais reçu plein de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que plein de lecteurs qui l'avaient découvert sur HP Fanfiction, en fait du jour au lendemain, s'étaient retrouvés sans cette fanfiction qu'ils avaient adorée, en se demandant mais où est-ce qu'elle est passée. Donc ils avaient cherché sur Internet, ils l'avaient retrouvé sur Wattpad. Donc à la base, il y en avait plein qui pensaient que j'étais pas l'autrice, que j'étais quelqu'un qui l'avait publié clandestinement. Donc j'ai dû un peu prouver que j'étais bien la bonne personne, parce que les gens ne me croyaient pas. Ah oui, il y avait aussi tous les messages privés où en fait les gens me demandaient à quand la suite. J'adore cette fanfiction, je viens de la découvrir. En gros, il y a une nouvelle génération qui est arrivée avec Wattpad et qui clairement, était en train de la découvrir. Et donc là, je clique un peu, je regarde les stats, parce qu'en plus sur HP Fanfiction, t'avais pas de stats, tu vois. Je vois sur Wattpad qu'on a moyen d'avoir 2-3 petites stats. Et là, je vois qu'on était à 120 000 lectures en quelques mois et que ça prend encore plus vite qu'à l'époque de HP Fanfiction. Et que vraiment, sur Wattpad, ça va encore plus vite. Et donc, je me suis dit, mais c'est trop bien. Et malheureusement, finalement, j'ai jamais vraiment continué la suite parce que j'ai pas eu le temps, mais je l'ai juste laissé grandir sur Wattpad. Et tout naturellement, elle a atteint 5 millions de lectures en quelques années sans que j'ai à faire grand chose puisque la majorité du travail avait été fait avant. Donc malheureusement, tu vois, j'ai pas de conseils à donner puisque tout le taf avait été fait avant et en fait ça m'a apporté une communauté de gens qui sont abonnés et ensuite il y a eu la Dramion qui est sortie des années après que là je mets plus 3 jours mais où je me rends compte aussi que on est un peu sur la même recette magique hein, c'est une fanfiction longue qui est mise à jour régulièrement et en plus sur un sujet qui intéresse un petit peu les gens quoi, c'est-à-dire que Drago et Hermione, je suis pas la seule à en lire et donc tout ça fait que les gens aiment bien de manière très pragmatique, quoi.
Oui, surtout que toi, t'as utilisé ces plateformes uniquement pour tes fanfictions et jamais pour tes textes originaux.
Non, j'avais essayé à un moment pour me motiver à commencer un thriller que j'ai jamais terminé. Je voulais mettre tout ce que j'écrivais au fur et à mesure. Ça s'appelait Le Kang de Beverly Hills. Et en fait, je me suis rendu compte que j'y arrivais pas, que c'était pas du tout la même chose pour moi d'écrire une fanfiction que d'écrire une histoire beaucoup plus intime et personnelle. Et de la publier en ligne. J'ai vraiment, je pense, un rapport différent avec les deux. Il y en a une, je pense, la fanfiction, où je sais pas, je me mets à la place des gens qui cherchent quelque chose à consommer, où je sais qu'ils vont consommer 40 000 autres fanfictions sur le même couple, tu vois. Alors que là, la fanfiction, l'histoire personnelle, c'est une histoire. Les gens ne cherchent pas ça, tu vois. Ils ne se disent pas qu'ils veulent lire ce truc que j'imagine et qui sort vraiment de mon chapeau. Et donc, j'ai un rapport, je pense, peut-être ça touche à mon ego, mais où j'ai vraiment pas, où je me sens pas à l'aise, en fait, à la publier au fur et à mesure et à dire, bah, en fait, j'enlève et puis je réécris, je vous propose une nouvelle version, etc. Ce que plein de gens arrivent à faire. Moi, j'y arrivais pas. Et donc, j'ai tenu, je pense, 2 mois. Et après, j'ai tout retiré.
En vrai, c'est pas facile, effectivement, parce que même de mon côté, j'avais atteint les 40 000 lectures, ce qui n'est pas grand chose comparé à ce que tu peux faire. Mais je trouve que c'est tellement difficile avec des histoires originales, entre guillemets. Mais il y en a qui arrivent à le faire. Hein. Il y a des livres qui ont été notamment publiés par Hachette. Je pense à Ilana Quentin, qui avait publié son roman et c'était entièrement original. Donc, comme quoi c'est possible. En tout cas, ceux qui nous écoutent et qui envisagent de le faire, c'est possible. Mais effectivement, pour toi, c'est pas du tout le même rapport. On arrive, du coup, bon, quelques mois ont passé, du coup, on parlait de tes 17 ans, 19 ans. Tu découvres le concept de féminisme, ça bouleverse ton existence, ça construit l'adulte que tu es aujourd'hui. Donc, c'était il y a 10 ans. Est-ce que tu penses justement que ça a également bouleversé ton écriture et comment ça l'a bouleversé, si c'est le cas?
Ah oui, je pense que ça l'a bouleversé, puisque si tu lis les années de la terreur, qui a été écrit 2 ans avant, tu vois qu'il y a des choses où le féminisme n'est pas passé par là. Tu vois qu'il y a 2-3 trucs. Tu sens qu'il y a une sensibilité, qu'il y a quelque chose qui essaie de s'exprimer, mais qu'il n'y a pas les mots et qu'il n'y a pas les choses. Et c'est rigolo, puisque ensuite, donc, la suite que j'ai jamais écrit, la suite de cette fanfiction que je n'ai jamais écrite jusqu'au bout, Le Revers de la Gloire, tu sens qu'il y a eu un espèce d'éveil. Et donc, c'est très sombre parce que tu sens que j'ai envie de libérer des espèces de frustrations et des choses que je suis en train de découvrir et de comprendre et que je veux montrer qu'en fait, la condition des femmes, il y a un truc qui va pas. Et mais c'est tellement noir et tellement... tu sens que toutes les femmes souffrent vraiment dans Le Revers de la Gloire, que je l'ai laissé de côté parce que je pense que j'étais trop jeune pour gérer un texte comme ça. Mais vraiment, tu sens que oui, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là dans mon écriture. Et j'en avais pas conscience à l'époque, mais je m'en rends de plus en plus compte maintenant. C'est-à-dire que le féminisme, je pense que je fais clairement partie de la génération où on a commencé à se former à ce sujet en ligne. Et maintenant, c'est quelque chose qui est hyper récurrent, que les plus jeunes découvrent les grands principes du féminisme sur les réseaux sociaux et sur Internet. Moi, je faisais vraiment partie de l'une des premières générations qui ont découvert le féminisme, voilà, via, mais Twitter, via Tumblr, etc. Je sais que ça fait très cliché, mais vraiment, c'était là où on s'informait. On n'avait pas d'autres espaces. Et je l'ai découvert parce que je m'intéressais beaucoup à la pop culture, aux œuvres, voilà, grand public, et qu'il y avait des sociologues, il y avait des chercheuses qui proposaient en fait des analyses d'œuvres en montrant les biais sexistes, etc., l'importance de la représentation. Alors bien sûr, le féminisme, c'est beaucoup plus d'autres choses que juste la représentation, mais donc forcément, moi qui étais sensible à ça, ça m'a influencée dans ce que je voulais écrire, à être plus vigilante dans ce que je consomme, et ensuite comment moi ça se répercute sur mon écriture carrément.
Oui, d'ailleurs on le sent bien puisque tu décris aujourd'hui Les Enchantresses comme une saga féministe.
Oui, tout à fait. Et alors pour le coup, ça n'a pas été volontaire quand j'ai commencé à l'écrire. Mon premier objectif, c'était je rentre de 3 ans où j'ai vécu à Rennes, je veux écrire une histoire sur la Bretagne, vraiment faire un hommage au folklore breton. J'ai toujours aimé les séries et les films pour ados, et ben j'ai envie de traduire ça en roman. Et donc j'ai juste au début eu cette idée-là des ados en Bretagne. Et puis après il y a eu cette idée de magie qui est venue parce que voilà, je voulais parler des mythes et des légendes. Et plus j'écrivais, plus je me suis rendu compte que si je racontais leur vécu, forcément, même si c'est des ados et qu'elles sont jeunes et qu'il y a une espèce de légèreté, d'insouciance et de quasi-immortalité, hein, puisque vraiment je pense qu'à cet âge-là on se pense invincible, j'avais besoin de parler de leur vulnérabilité en tant que jeune femme et que ça passait par des problématiques féministes. Mais à la base, je m'étais pas du tout dit « je veux écrire un roman féministe ». C'est venu au fur et à mesure, comme une évidence en fait.
C'est plus la conséquence de qui tu es que vraiment l'objectif de départ.
Oui, tout à fait.
Effectivement. Mais du coup, ça nous fait faire un bond dans le temps parce que cette histoire que tu commences à écrire pendant le confinement, bah, c'était du coup en 2020. Il s'est passé quelques années entre temps, des années où d'ailleurs tu as tenu un blog. Oui, je sais, j'ai fouillé sur toi, d'accord. Et est-ce que, en fait, pendant ces années-là, l'écriture, elle était mise de côté, à part pour le blog, ou est-ce que tu t'avais perdu cette envie d'écrire ou c'est juste que ce que t'écrivais, c'était pas pour être posté quelque part?
Alors, j'ai perdu l'intérêt pour l'écriture de fiction, mais pas pour effectivement l'écriture de non-fiction. Donc, j'ai eu un blog qui malheureusement n'est plus en ligne. Je pense qu'on peut retrouver quelques traces, mais juste à un moment, j'ai arrêté de payer le nom de domaine.
Je n'ai pas retrouvé. Pourtant, j'ai fouillé.
Et pourtant, il a eu pas mal de noms différents. Et c'est un blog qui a très bien marché. Donc, il s'appelait Tout est politique. Et il a eu d'autres noms avant. Il a très bien marché. J'ai eu parfois une couverture médiatique sur certains sujets. Ça a été repris par des journalistes qui en ont fait référence, même dans des épisodes de podcast, etc. Où voilà, ça parlait de pas mal de sujets de société. Donc non, il a vraiment bien marché. C'était beaucoup de vulgarisation féministe et sur des sujets de société qui me tenaient à cœur, avec un angle politisé, on va dire pas partisan, mais politisé, hein, où clairement on comprenait mes convictions. Et le but, c'était voilà, de vulgariser plein d'idées et de sujets en apportant un maximum de ressources. Et donc, j'ai eu cette écriture de non-fiction pendant plusieurs années, qui, je pense, m'a été assez... bénéfique, puisque ça m'a vraiment ça a été compliqué au début, mais petit à petit, si tu veux, quand t'es sur des sujets comme ça qui peuvent en plus être très sensibles, tu te prends beaucoup de commentaires négatifs voire violents, beaucoup de détracteurs, et donc il y a un moment ton écriture, tu vas la rendre de plus en plus sérieuse, pour montrer que t'es légitime sur ce que tu es en train de décrire, que voilà, t'as une expertise, que t'as quelque chose que t'as développé, que tu sors pas des idées d'un chapeau, quoi. Il y a vraiment eu des recherches derrière, et donc je pense que ça m'a beaucoup aidé vraiment à avoir quelque chose de beaucoup plus carré et rigoureux. C'est pas pour autant que je vais dire que c'est super de se faire harceler via son blog et voilà, mais ça a été je pense un peu un espèce de revers de la médaille, mais où d'un côté j'ai dû un peu me protéger, et donc en fait pendant plusieurs années j'ai écrit que ça. Et puis, je pense qu'il y a un moment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées justement avec cette présence en ligne que j'avais à l'époque, qui ont été très douloureuses, et notamment à cause du harcèlement. Et j'ai eu besoin de faire une pause, et je suis revenue, en fait, à l'écriture de fiction. Je pense parce qu'on était dans une période avec le Covid qui était très compliquée, que j'avais du mal à gérer à cause de mon hypocondrie, de mon anxiété, où vraiment je me disais, on va tous crever et ça va être horrible.
T'inquiète pas, je pense qu'on est tous passés par cette phase.
Je pense, vraiment. C'était plutôt, je pense, rationnel et légitime à l'époque de croire ça. Et donc vraiment, ce que j'ai fait, c'est que je ne sais faire qu'une chose, je pense. Enfin, voilà, c'est une manière de parler, mais c'est écrire. Et pour le coup, j'ai laissé de côté vraiment tout le côté... désolée, cette phrase n'est pas française, j'ai laissé de côté tout l'aspect non-fiction pour justement m'immerger dans quelque chose où je me sentais bien et où je me sentais très loin de l'actualité qui était hyper anxiogène, quoi.
Oui, bien sûr. Et donc, tu disais tout à l'heure que tu revenais de Rennes, tu te retrouvais confinée à Paris, pour le coup, et t'avais envie de parler de ça, t'avais envie de parler de jeunes femmes, t'avais envie de parler d'adolescence. Finalement, t'as aussi parlé de féminisme, mais il n'y a pas que ça. Puisque je n'ai pas retrouvé le poste ou la chose, mais je sais que tu l'as dit quelque part, où d'un coup, la pop culture des années 90, la trilogie du samedi, le fait que tu puissais associer un tome à Buffy, un autre tome à Charmed, et en fait, tout ça, c'est venu s'insérer dans ton écriture. Comment t'as utilisé la pop culture pour écrire Les Enchanteresses pendant ce confinement? Comment, en fait, tout ce qui t'a fait évoluer durant ton enfance et ton début d'adolescence, parce que voilà, les années 90, début des années 2000, c'était clairement ça, a impacté autant d'un coup ton écriture, je vais pas dire 20 ans après, mais si, 20 ans après.
Alors je pense que c'est un défaut, je sais pas si c'est un défaut professionnel ou un défaut de grande amatrice de pop culture, mais concrètement, quand on aime beaucoup, beaucoup la pop culture, quand on est très sériephile, très cinéphile, et quand vraiment c'est quelque chose qu'on aime profondément, on est habitué à ce qu'il y ait des références partout. C'est-à-dire que déjà, dans des œuvres que je regardais dans les années 90, il y avait des références aux années 70. Et il y a des choses que j'ai regardées a posteriori qui dataient des années 80 alors que j'étais même pas née, où en fait, je me suis rendu compte que des œuvres que j'aimais des années 2010, il y avait des références. En fait, tout se répond, tout fait écho. C'est une espèce d'énorme écosystème où voilà, tout vit ensemble. Et les références sont quasiment obligatoires, c'est comme ça que ça fonctionne. Les clins d'œil, c'est obligé, c'est des hommages permanents. Et donc moi, quand j'ai écrit cette histoire, et où je me suis très vite dit, je vais écrire sur trois petites nanas enchanteresses qui ont des pouvoirs, c'est grave Charmed. Forcément, je me suis dit, il faut que j'aille au bout, il faut que je fasse des références à Charmed. Puis elles vont vouloir combattre des monstres, donc ça fait très Buffy. Et en fait, voilà, Il y a eu des choses qui se sont un petit peu mises en place au fur et à mesure que j'imaginais des personnages où je me disais ah oui bah Antoine Le Billan, qu'est-ce qui fait penser à Logan Eccles de Veronica Mars, on me l'a fait remarquer il y a pas longtemps, mais oui moi j'en avais déjà conscience. C'est vraiment j'ai limite envie de dire que parfois le trait il est un peu grossier parce que c'est fait exprès d'avoir vraiment cette envie de dire bah oui là tu la vois la référence bah parce qu'elle est évidente. Et après il y a des gens qui sont vraiment passionnés de pop culture, qui sont très férus et qui me disent, pour le coup, il n'y a pas que des références évidentes, c'est que quand on est vraiment amateur de ça, quand on lit le tome 1 des Enchantresses, c'est les 5 premiers chapitres, il y a au moins 10 références juste dans certaines scènes, dans la manière dont elles sont rapportées, qu'elles sont décrites, où on me dit, bah, en fait, ce n'est que ça. Après, je me suis un peu calmée, mais le but, c'était vraiment que le tome 1, ce ne soit que ça. Après, voilà, j'ai un peu mieux équilibré parce que j'ai voulu aller sur d'autres choses et que je pensais que ça allait faire un peu too much si je faisais une saga qui n'était que ça. Mais je pense qu'en vrai, c'est un simple automatisme, c'est un réflexe de quelqu'un qui en a beaucoup consommé et qui voulait s'inscrire dans cette tradition et donc qui sait que pour respecter les codes, il faut avoir de l'hommage et de la référence.
Je comprends totalement ce que tu dis parce que dans mon cas absolu, je fais beaucoup de références à des animés que j'aime énormément. Il y a des références à Fullmetal Alchemist, il y a des références à SNK, il y a des références à Degree Man, que seuls les gens qui ont vu peuvent voir. Et en même temps, je trouve ça trop chouette. Et en plus, je me dis, dans ton cas, ce qui est également très chouette, c'est que ça peut amener une nouvelle génération à découvrir ces séries qui n'ont pas vécu en tant que tel en direct, mais où ça va les rendre curieux d'aller découvrir c'était quoi la trilogie du samedi, c'était quoi Charmed, c'était quoi Buffy, et essayer de comprendre un peu aussi, encore une fois, comme toi tu l'avais fait, remonter en arrière pour essayer de comprendre les références, même si le livre en lui-même peut se lire sans avoir les références.
Tout à fait, et ça aussi c'était très volontaire d'avoir des références récentes et des références plus anciennes, où clairement, si à la première lecture, on se dit bah, « je vois pas de quoi elle parle », mais c'est pas très grave, parce que ça tient sur une ligne et quelques mots, donc on peut passer à autre chose. Mais si on a envie d'aller plus loin, bah, on peut le garder en tête, se dire bah « retour vers le futur, je connais pas, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu mes darons en parler, donc peut-être que je vais aller voir ce que c'est, ça peut être sympa ». Et voilà, je pense vraiment que c'est comme ça, en toute façon, qu'il faut apprivoiser, appréhender les références, que ce soit de la pop culture ou pas.
Mais d'ailleurs, c'est quoi ta référence la plus récente dans tes livres?
Bah, je parle de Riverdale, mais pour le coup, j'en parle de manière, très explicite. C'est pas une référence clin d'œil, c'est écrit noir sur blanc Riverdale. Mais ça, c'était aussi une volonté parce que autant moi, je n'ai pas trop visionné Riverdale de Netflix parce que c'est pas mon style. J'ai commencé et ça m'a pas convaincue. Mais par contre, plus jeune, moi, je regardais le dessin animé Archimystère et compagnie. Qui a donné la série Riverdale, et Archimystère, c'est aussi à la base un personnage des comics des années 60. Donc il y a vraiment en fait une envie de caser quelque part Archimystère et compagnie, qui racontait l'histoire d'un ado qui essayait de résoudre des mystères avec des créatures magiques et des démons. Riverdale n'a rien à voir, mais moi, enfin, je sais que derrière juste ce petit nom de série, il y a quelque chose de beaucoup plus fort que j'essaye de transmettre, et je sais que des gens de ma génération savent très bien ce que j'essaie de faire, parce que oui, pour eux, Riverdale, avant d'être Riverdale, c'est Archimystère sur M6 Kid. Et les plus gros nerds me disent, bah oui, et puis surtout un comics dont on pouvait avoir les numéros en France de manière un peu, pas sous le manteau, mais c'était compliqué de les avoir, tu les trouvais pas partout, quoi.
Ça m'impressionne, parce qu'effectivement, je n'avais pas sa référence. Ça me fait penser que, je sais pas si tu l'as lu, Ready Player One.
Non, je ne l'ai pas lu, mais c'est sur ma liste.
Ben alors, là, il y a une différence énorme entre le film et le livre. Le film est mainstream. Le film est grand public. C'est des références que tout le monde peut avoir, d'accord? Et il est très, très bien, le film. Il est très chouette à regarder. Le livre est très chouette aussi, mais j'ai loupé 90% des références. C'est terrible. Donc, je pense que là-dessus, effectivement, faut être beaucoup plus calé en pop culture pour pouvoir comprendre. Je pense que ça te plairait du coup, parce que
Une
curiosité de mon avis, tu capterais beaucoup plus de références que moi, et celles que tu capterais pas, je pense que ça te donnera envie d'aller voir, parce que ce livre est bourré de références et de pop culture. J'aimerais qu'on passe à un nouveau format, parce qu'encore une fois, je te dis, tu es présente sur internet de plein de façons différentes, et tu racontes notamment que c'est grâce aux réseaux sociaux, à la fois sur TikTok et sur Instagram, que tu es publié aujourd'hui dans une grande maison d'édition qui est Hachette Roman. Et on l'a dit, tu travailles dans la com, Mais pour autant, c'était des coups de chance qui te sont arrivés parce que il n'y a pas tout. Malheureusement, le travail ne fait pas tout. Parfois, c'est juste une question de timing, d'être au bon moment face à la bonne personne, à la bonne vidéo. Et ça, malheureusement, on ne contrôle pas. Mais j'aimerais que tu nous racontes un peu, c'était quoi ces deux coups de chance qui te sont arrivés, qui sont peut-être aussi le fruit de beaucoup de travail sur du long terme derrière, parce que des fois, ça n'arrive pas quand même par hasard.
Eh bien, comme je te disais, j'ai eu un blog pendant longtemps et donc j'avais des réseaux sociaux associés à ce blog. Et pendant un moment, une fois que j'avais arrêté de nourrir ce blog, je continuais de nourrir les réseaux sociaux qui étaient liés. Et puis avec le confinement, justement, comme j'avais besoin de faire la part des choses, ces réseaux sociaux qui étaient très sérieux, entre guillemets, moi j'ai toujours privilégié l'authenticité, la spontanéité, et essayé quand même de garder une part d'humour et de légèreté, mais où voilà, on était quand même sur des sujets politiques et sociétaux très forts. Je me suis dit, en fait, je peux pas rester sur ces plateformes-là, je vais aller sur mes comptes perso et je vais parler d'écriture sur ces comptes perso où je me sens beaucoup mieux, enfin où voilà, je suis sur des sujets beaucoup plus personnels et vraiment pour le coup plus légers, où il y a pas autant d'enjeux, et je les ai juste partagés à ma communauté de base, donc sur les réseaux sociaux de toutes les politiques, en leur disant, écoutez, durant le confinement, je serai pas là, je serai sur ces autres plateformes, n'hésitez pas à me suivre. Et donc, il y a quelques personnes qui m'ont suivi par curiosité, parce que je leur ai dit que j'allais parler d'écriture. Ça, c'est le premier point qui a fait qu'effectivement, il y a des gens qui ont suivi l'écriture alors que c'était pas spécialement... prévu à la base, j'avais pas calculé le truc en me disant j'allais mettre en avant cette écriture de fiction en espérant que quelque chose se passe. Justement, je me disais, là j'écris de la littérature pour ados qui n'a rien à voir avec les sujets de base, donc même s'il y a des éditeurs qui me suivent sur toutes les politiques, même si il y a des correcteurs, des traducteurs, hein, je sentais qu'il y avait déjà des gens de l'édition qui me suivaient, hein, puisque je parlais beaucoup de lecture à l'époque, je savais que c'était pas du tout le bon marché sur lequel je me positionnais pour eux et que ça les intéressait pas. Et donc je pense aussi que comme je savais qu'il y avait pas d'enjeu au fait que ces gens me suivent, c'est ce qui m'a poussée à partager des morceaux, des extraits, sans trop savoir qui était derrière l'écran et qui pouvait me lire sur mes réseaux sociaux personnels. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait justement Charlotte, qui est une lectrice pour Hachette Roman, et qui, elle, me suivait sur toutes les politiques, et qui... je pense que effectivement, elle s'intéresse plutôt justement aux lectures qui sont en lien avec le secteur dans lequel elle évolue, donc c'est la littérature young adulte, etc. Mais pour le coup, qui a des ponts, bien sûr, avec les sujets de société, donc elle me suivait pour ça sur toutes les politiques, et elle a vu que moi aussi, j'avais compris les ponts, hein, que ça nourrissait mon travail de fiction. Et donc, quand j'ai posté quelques extraits, elle a été hyper surprise de me voir sur ce créneau, mais elle a aimé, et c'est là où, en fait, elle s'est rapprochée de moi, et où elle m'a dit, écoute, tu me connais pas, et moi, je te suis depuis un moment. Et là, je vois que t'écris de la littérature pour ados. Je savais pas, mais je tombe dessus par hasard. C'est trop cool. Donc, puis là, ce que t'as posté, les quelques lignes, ça a du potentiel. Donc, si tu veux me l'envoyer, hésite pas. Et puis, je regarderai ça. Je te ferai des retours. Il y a pas de problème. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Vraiment, je ne savais pas qui c'était. Et moi, j'étais sur mon compte perso. Et je ne me souciais absolument pas des gens qui s'étaient abonnés à moi depuis tout est politique. Je me disais pas qu'ils pouvaient être intéressés. À part pour être motivés eux-mêmes à écrire, je me disais pas du tout. Et pour le coup, alors j'étais aussi sur TikTok à l'époque. J'avais fait des vidéos sur l'écriture qui avaient bien marché, dont celle où je termine la première version du tome 1 des Enchantresses, la première version du manuscrit, qui a fait 200 000 vues à l'époque, où je dis ça y est, je l'ai arrêté, c'était hyper émouvant et tout. Mais à l'époque, TikTok, alors les choses sont allées très vite avec TikTok, mais on se rendait pas du tout compte de l'impact que ça allait avoir. On était vraiment au début. Alors TikTok existait avant, mais durant le confinement, c'est là où tout a basculé. Mais tout le monde tâtonnait, tout le monde était hyper authentique, spontané. On cherchait pas spécialement quelque chose en faisant le buzz dessus. C'était, je pense même que plein de gens se disaient, une fois que le confinement va passer, TikTok, on va l'oublier, ça sera derrière nous, ça sera de l'histoire ancienne. Donc moi, je parlais d'écriture dessus sans me dire que là aussi, ça allait m'apporter un peu de visibilité ou même montrer que je savais ce que je faisais de mes 10 doigts et que visiblement, c'était pas trop nul, quoi. Je me suis jamais dit ça.
Oui, c'est vrai que c'était fou. À l'époque, TikTok, en plus, dans mon entourage, c'était surtout des personnes qui utilisaient pour faire des danses. Donc j'ai été réfractaire à TikTok pendant très longtemps. Mais au moins, j'ai changé d'avis après parce qu'il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Mais c'est vrai que tout ça, ça montre à quel point les réseaux sociaux, c'est une grande, grande part de travail, une grande part d'implication, une grande part de régularité et tout ce qu'on veut. Mais parfois, ce qui fait basculer, c'est une toute petite part de chance.
Oui, mais ça, je suis totalement d'accord, puisque il y a plein... Alors, en plus, en tant que responsable de médias sociaux, moi, je le vois tous les jours dans mon boulot. On peut respecter les règles des algorithmes. On peut faire tout ce qu'il faut. On peut trimer, je sais pas, jour et nuit pour produire plein de contenu. Parfois, ça va pas prendre. Parfois, ça va pas prendre autant qu'on l'espérait. Parfois, c'est un contenu qui a été fait à la va-vite qui va marcher parce qu'il est authentique, parce qu'il est spontané, parce qu'il touche à quelque chose qui va parler à plein de gens, ou parce qu'on se met sur un créneau où il n'y a pas tant de gens que ça, et donc forcément, les gens, ils y répondent si ça les intéresse. Et tout le contenu hyper léché préparé en amont, en fait, il va pas fonctionner parce qu'on s'est planté, on a mal maîtrisé les codes, ou le truc, ça fait 3 semaines que plus personne en parle, et le temps qu'on le produise, bah, c'est trop tard. Donc, c'est vraiment très compliqué et assez injuste, malheureusement, les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Et vraiment, il y a souvent plein de conseils très justes qu'on peut suivre. Et je pense qu'on devrait même plutôt avoir tendance à suivre si on se lance sur les réseaux sociaux et qu'on sait pas voilà d'où partir. Il y a vraiment une expertise qui existe et on peut voilà suivre des gens et les écouter. Mais il faut pas oublier qu'il y aura toujours un moment où quand ça bascule et où ça prend, c'est pas de notre sort. Déjà, c'est pas de notre sort par rapport à la plateforme, par rapport à ce qu'elle va mettre en avant. Voilà, on peut pas percer tous les secrets de l'algorithme. Et ensuite, en plus de ça, il y a une question parfois de relation et de connexion avec des gens qui vont faire que ça va marcher, qui vont être la bonne personne, qui vont montrer notre travail à la bonne personne, ou tout simplement, je sais pas, la bonne booktokeuse ou la bonne boostagrammeuse qui va en parler en disant « mais ce livre, il est génial » et où ça va exploser. Et ça, en fait, c'est pas de notre sort. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut contrôler. Et malheureusement, on a l'impression qu'on peut tout contrôler sur les réseaux sociaux alors qu'il y a vraiment une part qui n'est que du hasard et que de la chance.
Puis l'algorithme change très souvent. Je me souviens, pendant le confinement, les Reels, je sais pas comment il faut prononcer, je prononce à chaque fois différemment. Quand j'en postais un, en même pas 10 minutes, j'avais fait 10 000 vues. Alors que j'avais un compte 4 fois plus petit qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je sais plus le faire. Et genre, c'est un truc où, à chaque fois, quand je vois des nouveaux auteurs se lancer sur les réseaux sociaux, j'ai une part de moi qui me dit, c'est plus difficile pour eux, alors que non, c'est peut-être pas forcément plus difficile parce que c'est peut-être d'autres choses qui marchent mieux. Mais c'est, en fait, très compliqué d'avoir les codes puisque les codes changent tout le temps, en réalité.
C'est ça. Et ce qui fait que moi, j'en ai beaucoup joué à un moment, bah, jusqu'à l'an dernier. Tout simplement parce que j'avais un moment envie que mon compte il grandisse plus. Voilà, j'avais envie de parler de plus souvent d'écriture, toucher plus de gens liés à ça, pas forcément par rapport à mes bouquins, mais parce que je voulais vraiment être plus régulière sur l'écriture, sur ma vision de l'écriture, sur mon travail d'écriture, comment j'en parlais, etc. Voilà, je voulais vraiment parler de ça sur les réseaux sociaux et j'avais voilà envie de faire grossir ma communauté. Donc j'ai cravaché à mort pendant 3 mois, j'ai pris 15 000 abonnés, c'était super. Après j'étais KO et j'étais dégoûtée du truc, donc ça m'a vraiment calmée. Et ensuite forcément, bah, une fois qu'on prend 15 000 abonnés, on a une espèce de plafond qui, on commence à plafonner forcément parce qu'on va pas pouvoir prendre 15 000 abonnés tous les 3 mois indéfiniment.
15 000 abonnés en 3 mois, c'est très impressionnant.
Ben oui, voilà. Donc et je pense que si j'avais voulu encore en gagner, j'aurais dû revoir toute ma stratégie est recommencer encore et encore, et je ne pouvais pas. C'est un boulot à plein temps qui n'est pas le mien. Et ce qui fait que j'ai fait une espèce de grosse pause où je postais, mais je postais plus vraiment avec le cœur, vraiment juste par principe, on va dire, pour conserver cette communauté. Et c'est comme ça que cet été, je me suis dit, là, je pense que j'ai vu tout ce que j'avais à voir sur les réseaux sociaux et je vais vraiment changer mon rapport aux réseaux sociaux, ce que j'ai fait depuis là le début de l'année, et où je vois que pour le coup, je me plie beaucoup moins au code de la plateforme. Mais je pense que par rapport à mon métier, il y a quand même des choses qui me restent sur le côté spontanéité, authenticité, et qui sont des choses qui sont extrêmement mises en avant ces temps-ci sur les réseaux sociaux, où tout le monde dit voilà, il faut être transparent, il faut être spontané, il faut être authentique. Donc la plupart des gens pensent que ça veut dire qu'il faut parler de leur vie 24 heures sur 24. Non, pas du tout. Mais donc ces choses-là, une fois qu'on a compris comment on peut communiquer dessus et les exprimer aux autres, En fait, ça marche très bien, sans avoir besoin de faire 40 000 efforts. C'est pas une recette magique, hein. Faut juste prendre le pouls de sa communauté. Et moi, je vois que bah, je poste 1000 fois moins depuis septembre. Je me suis calmée sur ça parce que c'était épuisant, mais que ça marche très bien et que les stats vont très bien. C'est pour ça que quand j'ai des auteurs qui viennent me voir et qui ont un petit compte où je vois qu'il y a écrit 50 abonnés, qui me disent « Voilà, j'ai créé mon compte d'autrice, mais je stresse un peu, j'ai peur de pas avoir d'abonnés, puis j'ai l'impression qu'on fait beaucoup, beaucoup de posts. Oh, » Souvent, j'ai envie de leur dire, on se détend déjà, écris ton bouquin, le reste on verra après. Ça ne dépend pas que de toi en plus, d'avoir du succès sur les réseaux sociaux. Et surtout, je pense que y a beaucoup de choses qu'on peut faire actuellement en faisant, on va dire, du moins mais mieux et en faisant surtout avec le cœur. Et je pense que ça peut très bien prendre sur les réseaux sociaux si on fait comme ça, ouais. En tout cas, j'en ai la preuve.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que je poste surtout des stories personnellement sur Instagram. Je fais assez peu de posts finalement. Il y a une époque où je postais 3 à 4 réels par semaine. Aujourd'hui, déjà, si j'en poste 3 à 4 par mois, ça, c'est magnifique. Donc, et je crois qu'on est un peu dans ce concept de, je sais pas si tu connais Shuari. Ça veut dire apprendre les codes, maîtriser les codes, casser les codes. Genre, c'est 3 étapes. Et dans toute discipline, en fait, tu dois passer par ces 3 étapes. Et je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, on arrive à ce ri qui est de casser les codes pour créer les siens et de voir, en fait, ce qui nous plaît, ce qui nous convient et là où on se sent à l'aise et là où ça marche. Donc, effectivement, je comprends tout à fait ce que tu fais et je comprends aussi cette envie de dire à d'autres auteurs, bah, il n'y a pas de recette magique puisque moi, je ne fais pas ce qui est recommandé par la plateforme. Donc, c'est un peu compliqué là-dessus. Tu parlais d'authenticité en disant, ouais, c'est un des trucs où tout le monde dit, enfin, il faut être authentique. C'est tellement dur d'ailleurs d'être authentique. Toi, t'es authentique sur un aspect que je trouve très drôle. C'est que, notamment, t'as fait certains TikTok où tu racontes que tu t'inspires de tes bêtises que t'as fait ado pour écrire tes romans. Est-ce que c'est vrai déjà?
Il y a énormément de choses dans mes romans qui sont inspirées de mes années ados. Ça peut être autant des personnages de mes romans, alors qu'ils sont pas complètement pompés sur des gens que j'ai rencontrés, mais vraiment où il y a des alors on peut pas appeler ça des références puisqu'on parle de gens de la vie réelle, mais des allusions à des gens que j'ai connus. Et pour le coup, j'ai encore des amis du lycée où si je leur disais tel personnage, c'est un clin d'œil à tel mec du lycée, tu vois, il y a quand même des points communs, ou telle nana du lycée, je sais pas si tu te souviens, une fois, elle avait, je sais pas, dit tel truc ou fait tel truc, je pense que mes potes me diraient, mais oui, mais c'est vrai, j'avais oublié, parce que j'ai une très bonne mémoire, surtout pour les trucs cons, et je pense que les trucs cons peuvent être très drôles. Donc il y a ça, et après, oui, moi, j'étais un peu une tête brûlée, hein, au lycée, j'avais pas de super bonnes notes parce que j'étais une flemmarde, pas parce que j'avais spécialement des grosses difficultés. Alors j'en avais dans certaines matières, mais j'étais aussi une grosse flemmarde qui pensait que c'était mieux de faire la fête et de faire des conneries que d'être assidue en cours. Et donc forcément, ça donne plein d'idées parce que j'allais beaucoup trop en soirée, que je faisais le mur pour aller en soirée et qu'en soirée, je faisais plein de bêtises. Donc ça crée un vivier de souvenirs que je ne regrette absolument pas d'avoir parce que quand je dois écrire, eh ben ça m'aide bien. Et pourtant, les enchanteresses, dans les enchanteresses, elles sont beaucoup plus sages que ce que j'étais à l'époque.
Mais est-ce que tu penses que écrire du young adult ou écrire du roman adolescent, c'est réveiller un peu l'ado qui en soi aussi?
Mais parce que moi, j'ai l'impression que j'ai jamais quitté cet ado-là. Il y a plein de choses qui vont mieux que lorsque j'étais ado et que je suis très heureuse d'avoir laissé derrière moi, mais le côté vouloir tester des choses, être curieuse, parfois un petit peu impulsive ou on va dire plutôt trop spontanée et se dire après coup c'était peut-être pas une bonne idée là ce que j'ai fait et avoir un peu cette envie de on ne vit qu'une fois voilà, enfin essayons des choses, moi c'est quelque chose qui m'anime, qui ne se traduit plus de la même manière que quand j'étais ado mais que j'ai gardé. Donc j'ai pas l'impression, c'est vrai, d'avoir eu une espèce de coupure dans ma vie où je me suis dit bah ça y est, là je suis adulte et donc mon adolescence est derrière moi. Donc j'y pense pas spécialement avec nostalgie pour le coup, en me disant ah c'était bien plus jeune.
En même temps, personne ne nous remet jamais de diplôme en disant maintenant c'est bon, tu es adulte.
Bah non, personne ne le fait. Mais par contre j'ai quand même l'impression alors c'est pas des gens qui sont mes amis, parce que je pense que mes amis ont pas trop cette posture-là, mais quand même dans mon entourage, je vois que t'as des gens très vite qui ont un peu, comment dire, endossé, tu sais, le rôle du daron alors qu'ils ont pas d'enfants, quoi. Donc voilà, c'est bon, ils se sont amusés. Et je vais faire une petite digression, mais je vois ça beaucoup avec les gens d'école de commerce qui, je pense, durant leurs années en école de commerce, ont fait la fête à fond. Mais vraiment, mais on vécu un truc, mais je pense que même peut-être ils ont eu une overdose. Et une fois que l'école de commerce s'arrête, ils disent « c'est bon, je n'en peux plus. J'ai usé mes batteries sociales pour les 70 ans à venir, donc maintenant je me daronise. » Moi, j'ai pas eu ce truc-là, puisque j'étais telle brûlée, mais quand même avec modération, justement. Moi, c'est un peu, tu sais, je tiens le marathon sur la durée, donc je n'ai pas eu ça. Mais oui, t'as clairement des gens, je pense que, pour le coup, tu vois, le diplôme de daron, ils l'ont même eu avant l'heure, malheureusement.
Je vois bien. Tu disais, tu tentes plein de choses. Genre, t'aimes bien tenter des choses. On parlait du fait que t'as tenté plein de formats. Dernièrement, tu t'es lancée dans un nouveau format. T'as dit « fuck les réseaux sociaux, vous m'agacez, vous n'êtes pas comme je veux, vous ne marchez pas comme je veux et je ne peux pas parler comme je veux, je vous emmerde, je vais ailleurs. » Et tu as créé ta propre newsletter. D'ailleurs, je t'ai suivi sur la plateforme qui s'appelle Substack, voilà, qui est très chouette parce que je l'ai dit au cas où ça intéresse des gens de créer leur newsletter, au moins celle-là, elle est gratuite, même pour la personne qui héberge. Donc, elle devient payante que si vous la faites payer aux gens. Donc, voilà, là où les autres newsletters sont payantes. Et donc, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette newsletter Gang de Plumes qui aborde des sujets extrêmement variés parce que ça va de l'écriture à la santé mentale et sur des sujets qui peuvent être très profonds et très deep parce que toi, c'est un sujet qui te parle beaucoup. Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce format alors que bah, t'as déjà une très belle communauté à la fois sur Insta ou sur TikTok et que, entre guillemets, t'avais pas forcément besoin sur le papier d'aller voir ailleurs.
Bah, je pense que comme tu l'as très bien résumé, à un moment j'ai dit fuck les réseaux sociaux. Et parce que aussi, tu vois, à la différence de toi où tout à l'heure tu disais, moi je parle beaucoup plus en story maintenant et j'ai un peu abandonné le reste. Moi ça me gonfle de parler en story. Désolée de ce que je vais dire, je pense que c'est aussi lié à mon anxiété sociale, mais poster une story et avoir 40 réponses. Et moi, en plus, j'ai cette déformation professionnelle de vouloir répondre à tout le monde, parce que je ne le dois pas, mais moi, je le voulais. C'était épuisant. Et surtout, je voyais pas ce que j'en ressortais de ces échanges, de ces micro-échanges un peu éphémères. Ça ne me nourrissait plus. Et je me demande si à un moment, ça m'a nourrie vraiment. Et donc, j'étais frustrée de vouloir parler de plein de choses, d'essayer de le faire en story ou en post, et à chaque fois d'être limitée parce qu'il faut faire des choses courtes, faut que tout rentre dans des petits carrousels, et puis il faut que ce soit lisible, donc faut pas trop charger, et puis on poste, et les gens disent « ah, super post », et puis deux jours après, ils l'ont zappé, ou finalement, le post, ils l'ont pas vu, et puis l'algorithme, bah, il est passé à autre chose, et juste, ça me gonflait, et donc effectivement, j'avais pas besoin de spécialement aller autre part parce que bah, j'avais déjà une communauté qui était là. Mais justement, je l'ai fait pour moi. En gros, j'avais envie de parler plus longuement. Voilà, j'avais envie moi, peu importe ce dont les gens avaient envie. Moi, j'avais envie de ça. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais faire une newsletter. À la base, il y a à peu près 6 mois, quand je m'étais dit, oh, ça me manque d'écrire, je m'étais dit, est-ce que je reprendrais pas un blog? Mais vraiment, les blogs, je pense que j'en ai fait le tour, justement. Hein. J'ai longtemps écrit sur les blogs. Et je sais qu'il y a des gens qui sont encore attachés au blog. Je pense que vraiment, on est passé à autre chose maintenant, que le format blog, on le retrouve d'une autre manière et que la newsletter permet ça. Donc voilà, ça a vraiment été un choix hyper égoïste de ça me saoule les réseaux sociaux, ça me saoule les échanges avec les gens sur les réseaux sociaux parce que en vrai, je m'y retrouve pas et j'ai fait le tour. Donc, bah, qu'est-ce que je veux moi? Eh ben, je veux écrire plus longuement et je vais faire une newsletter. Voilà.
Et est-ce que tu recommandes aux auteurs d'avoir leur newsletter? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de plutôt intéressant?
Alors moi, j'adore parce que je trouve que on renoue vraiment avec l'écriture. Les réseaux sociaux, c'est super pour travailler son écriture de manière impactante, synthétique, pour vraiment. Je pense essayer de nouvelles choses, puis comme les plateformes bougent beaucoup, il y a vraiment toujours des choses à apprendre, mais si on a vraiment envie de travailler son écriture sur un temps long, je pense que la newsletter, ça peut beaucoup aider. Après, c'est comme tout, une newsletter, pour qu'elle fonctionne, faut être régulier, ça prend du temps. Si vous avez déjà du mal à terminer un chapitre... ça ne vaut pas la peine. Voilà, j'en reviens toujours à ce même truc comme quand on m'écrit en me disant « voilà, j'ai créé mon compte Instagram parce qu'il faut se créer un compte Instagram, mais j'ai peur, je ne vais pas avoir le temps. » D'abord, occupez-vous de l'écriture, de votre écriture principale. Si votre première activité d'écrivain, c'est un bouquin. Occupez-vous du bouquin, la newsletter, on verra plus tard.
J'adore, parce que j'avais une question de justement par rapport à toi, tout ce que tu fais, parce que bon, t'as Instagram, TikTok, t'as eu ton blog, t'as ton compte Wattpad, t'as ton podcast J'ai pas sommeil, t'as ta newsletter, donc voilà, et donc t'es vraiment surreprésentée sur internet. J'avais ma question de, est-ce que tu penses que c'est nécessaire en tant qu'auteur ou en tant qu'autrice d'être présent en ligne? Je vais plutôt proposer la question, est-ce que tu penses que c'est nécessaire en tant qu'auteur et autrice d'être présent en ligne quand on a déjà écrit un livre et qu'on va le publier? Comme ça, au moins, le livre est déjà écrit, on enlève cette part de d'abord écrivez et après on verra.
Or, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que t'as plein d'auteurs et d'autrices qui sont pas en ligne, je pense. Et même, alors une fois, j'ai vu passer un TikTok qui était très drôle, qui disait « Je pense que les célébrités les plus cool et les plus... affirmer dans le fait d'être des célébrités, c'est celles qui n'ont pas de réseaux sociaux. » Et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vrai. T'as de superstars qui n'ont pas de réseaux sociaux, qu'ils soient auteurs, chanteurs ou ce que tu veux, parce que ça les intéresse pas, ou je pense qu'ils flippent, qu'ils se disent c'est les gens en ligne, ça me fait trop peur, je pourrais pas le supporter. Et je pense à une autrice en particulier qui est un très bon exemple, c'est Sally Rooney, qui a écrit Normal People, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle a un compte, je crois qu'elle a, je sais plus combien d'abonnés, il y a deux photos, la dernière a été postée il y a 3 ans, peut-être. Et elles sont contre-fous des réseaux sociaux. C'est vraiment pas son truc. Alors, je te dis ça, peut-être que depuis, elle a pris son compte Instagram en main, mais à l'époque, je suis même pas sûre que le compte était certifié. Je suis même pas sûre que les gens savaient si c'était vraiment elle ou pas. Mais ça avait l'air d'être elle. Donc, les gens s'abonnaient. Elle s'en fiche. Et dans son dernier bouquin, elle en parle un peu des réseaux sociaux. Elle explique que c'est pas du tout quelque chose qui serait sain pour sa santé mentale et qui l'aiderait dans son approche d'être autrice. Pour être sur les réseaux sociaux, faut quand même avoir un mental assez fort, parce que ça peut apporter plein de belles choses, mais il y a aussi des choses négatives, et malheureusement, le négatif peut impacter plus que le positif. On le dit, hein, déjà, c'est comme ça que les algorithmes sont foutus, et même, je pense, psychologiquement, oui, quelqu'un qui nous défonce sur les réseaux sociaux, bah, même si on a eu 3 super avis positifs, bah, si le message nous défonce et qu'il tape là où ça fait mal, ça peut être difficile de s'en remettre. Donc, je sais pas si c'est nécessaire d'avoir des réseaux sociaux quand on est auteur et qu'on a publié. Ça peut être un point positif, on peut faire plein de belles rencontres, mais faut pas se plier à cette... En gros, faut pas que ça devienne une injonction, faut vraiment y aller pour le plaisir, parce que faut aussi se dire qu'à ce moment-là, alors j'aime pas cette expression de personnage public, parce que je considère qu'on devient pas un personnage public, c'est pas ça un personnage public. Un personnage public, c'est quelqu'un qui fait partie de la vie publique, donc de la vie politique, et les auteurs, les artistes en général, ne sont pas des personnages publics, ils ont juste une part de leur travail qui est visible. Mais donc effectivement, comme les gens pensent que on est des personnages publics, parfois ils peuvent dépasser les limites, ou avoir des attentes ou des manières d'interagir avec nous qui sont pas très justes. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention avant d'y aller, et vraiment y aller parce qu'on a envie, on en a envie, et pas parce qu'on a envie de le faire. Et ensuite, mon deuxième point, c'est super de mettre en avant son livre sur les réseaux sociaux, mais on n'aura jamais autant d'impact que si c'est quelqu'un d'autre qui le met en avant pour nous. C'est pas nous qui faisons le plus gros du travail. Le plus gros du travail, c'est les lecteurs. Et c'est vraiment quand l'engouement vient des lecteurs que ça prend. Alors effectivement, oui, le fait de le mettre en avant, nous, peut-être que des lecteurs vont tomber dessus et qu'ils vont en parler, que ça va faire caisse de résonance. Mais ils peuvent très bien tomber dessus différemment. Et les plus beaux succès BookTok, c'est pas parce que des auteurs les ont présentés sur les réseaux sociaux et que les gens les ont rencontrés comme ça. Non, c'est des lecteurs qui ont adoré parce qu'ils sont tombés dessus sur Goodreads, en librairie ou ce que tu veux, et que c'est eux qui en ont parlé ensuite. L'auteur n'est pas forcément, et il est même très rarement celui qui a généré le succès à la base sur les réseaux sociaux. Ça vient d'autres endroits sur les réseaux sociaux que sur lui. Et c'est frustrant, dit comme ça. Mais moi, je trouve qu'en fait, non, c'est plutôt rassurant de se dire que ça ne dépend pas que de nous.
Oui, en gros, il faut être sur les réseaux sociaux parce qu'on en a envie et parce qu'on a trouvé des formats qui nous plaisent, où on prend du plaisir et où on se dit c'est trop chouette ce que je fais, et pas que ça devienne une torture, une corvée, quelque chose d'angoissant.
C'est ça.
Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire rimer réseaux sociaux et santé mentale?
Vaste sujet.
Je sais.
Ce que je vais dire est hyper pessimiste, mais la plupart des études montrent que les réseaux sociaux, c'est pas bon pour notre santé mentale. C'est... Malheureusement, tout ce qui sort en général sur la perception que les jeunes ont d'eux après avoir ouvert ou fermé Instagram, c'est pas hyper positif. Je prends cet exemple qui est un peu cliché, mais qui, je pense, est assez représentatif de quelque chose. Il y a une manière dont les réseaux sociaux sont construits qui n'aide pas à valoriser notre estime de soi, notre interaction avec autrui. Donc, je pense que si on va aller sur les réseaux sociaux pour se faire du bien, c'est peut-être pas le meilleur endroit.
Ça peut être un endroit de rencontre, mais pas forcément de mise en égo.
Je pense, ouais. Ouais, alors je sais pas.
Faut savoir pourquoi on y va.
Oui. Et là aussi, ça peut être un endroit de rencontre, mais il y a plein de gens qui malheureusement, en fait, ils vont en espérant se faire des amis, qui au final se sentent très seuls et qui voient d'autres gens autour d'eux se faire des amis, qui n'arrivent pas à s'en faire.
Ouais.
Moi, j'ai un peu tendance à dire, c'est comme pour l'amour, faut pas chercher l'amour, un jour il nous tombe dessus, les réseaux sociaux, c'est pareil. Faut y aller sans avoir d'attente. Il y a quelque chose qui te tombera dessus un jour. Idéalement de positif, hein. Mais oui. Voilà, faut pas y arriver en ayant des attentes, que ce soit sur le plan affectif, relationnel, ou justement comme t'as dit, par rapport à son ego, parce que je pense que c'est ça peut devenir une grande souffrance malheureusement. Moi, je sais que les réseaux sociaux ont joué une grosse part ont joué un rôle, malheureusement, un rôle assez négatif dans tout ce qu'il y a à ma santé mentale, mais que j'ai choisi d'y rester parce que je savais que j'avais plus à perdre en n'y étant pas. À un moment, tu vois, j'ai un peu fait le ratio, et effectivement, ça a eu un impact négatif sur ma santé mentale. Mais je prends, parce que pour d'autres choses, je trouve que ça va. Mais j'ai conscience aussi que ça n'a pas aidé, et c'est pour ça aussi, plus je vieillis, je vais pas dire plus je grandis, mais plus je vieillis, plus j'arrive aussi à faire la part des choses. Et le fait justement, tu vois, de décider d'avoir plutôt une newsletter plutôt que de poster en story, d'avoir des interactions permanentes, ça fait partie de ça. Je continue d'être sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'auteurs sur Substack qui passent leur temps à dire « Substack est un réseau social ». On l'assume pas, mais c'est une forme de réseau social et je suis d'accord avec eux. C'est juste que c'est un réseau social qui, dans la manière dont il est configuré à l'heure actuelle, convient beaucoup plus à ma santé mentale que d'autres plateformes comme Instagram, par exemple.
Donc, il faut mettre des limites, toujours pour se protéger, parce que finalement, entre guillemets, comme tu l'as dit tout à l'heure, notre métier, c'est d'écrire. Donc, si on se retrouve dans un état où on n'est plus capable d'écrire, c'est qu'il y a un problème.
Tout à fait. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà écrit pour me dire que les réseaux sociaux les ont empêchés d'écrire à un moment, soit en termes de captation de l'attention. Bon, ça, c'est pas que lié aux auteurs, hein, c'est, je pense, un problème qui revient chez beaucoup de monde, mais aussi sur l'angoisse que ça leur produisait. Sur le fait de se comparer aux autres et donc d'arrêter d'écrire, ou alors d'avoir prévu de poster des choses sur les réseaux sociaux et finalement de pas oser les poster parce que justement une espèce de tétanie avant publication. Donc justement, en fait, les réseaux sociaux, ça devrait tellement être l'inverse et nous donner envie de tester des choses et de repousser nos limites. Mais si c'est au final pour se brider et penser à 40 000 choses avant de publier parce que voilà, on veut que tout soit parfait et on anticipe trop, à ce moment-là, on tombe dans l'anxiété. Voilà, et c'est jamais très bon, donc ça veut peut-être dire que c'est pas le moment ou c'est peut-être pas la place et le lieu d'écrire sur les réseaux sociaux.
C'est bien noté. Dans une de tes dernières newsletters, tu parlais du tome 4 des Enchantresses qui va sortir dans quelques mois. Dis-moi comment ça s'est passé l'écriture, parce que c'était la fin de ta saga, il me semble, c'est en 4 tomes.
Oui, c'est le dernier.
Alors, ça fait quoi de terminer un tome? J'ai besoin de conseils, je suis en train de terminer ma saga, j'ai besoin de quelqu'un qui ait terminé la sienne. Dis-moi, comment on fait?
Bah, alors pour le coup, en plus, je pense que toi, non, je suis même sûre, toi, tes tomes sont plus longs que les miens. Donc moi déjà, je ne voyais pas le bout, mais alors je pense que toi, tu dois encore voir moins le bout que moi.
Le troisième tome, selon mes estimations par rapport à ce que j'ai calculé en chapitre, fera au minimum 160 000 mots.
Bah tu vois, moi le tome 4, qui est le plus long, j'en ai écrit 113 000 et j'étais au bout de ma vie. Donc déjà, tu vois, sur ce point-là, je pense que sur le fait de se dire le dernier est souvent le plus long et il faut s'accrocher, ça, tu maîtrises. Donc c'est bon, tu es préparée. Pour le reste, écoute, là, je suis dans les corrections qui sont assez intenses et assez denses. Ce qui me fait une émotion très contradictoire dans le sens où je me dis, mais allez, là, c'est le dernier, donc qu'on en finisse. Et en même temps, bah, c'est très chouette de se raccrocher une dernière fois et de tout bien peaufiner, finaliser, parce qu'on a envie de leur donner une belle fin. Mais je pense que je réalise pas trop.
Et tu sens que t'as fini avec elle? que tu as dit tout ce que tu avais à dire avec ces trois filles?
Non, et c'est volontaire. Parce que moi, à chaque fois que j'écris, ça se voyait déjà dans mes fanfictions. Alors, la suite des Années de la Terreur a jamais été terminée, mais les Années de la Terreur se terminent, qui peut donc être lue sans la suite, se termine quand même sur une fin assez ouverte, qui est totalement volontaire. Et toutes les histoires que j'ai toujours eues en tête et que j'espère écrire un jour n'ont pas de fin close où tout a été dit, puisque je considère que j'écris un moment de leur vie. Et donc j'étais pas là avant d'écrire ce moment-là, mais je ne serai pas non plus là après. Donc il y a des choses qui vont rester ouvertes, qui ne seront pas complètement conclues, et j'aurai pas tout raconté, parce qu'en fait je suis vraiment juste de passage. J'écris quelque chose, un moment qui s'est passé dans leur vie, et puis après je repars, et on va dire un peu je laisse la lumière allumée, quoi. Mais le but c'est pas de réécrire la suite dans 10 ans en disant surprise, et ben j'avais pas tout dit, donc maintenant je vais le faire. Non, c'est comme ça. C'est comme ça que je perçois mon écriture, et quand je raconte la vie des gens, et c'est ce que j'ai fait avec la leur, j'ai raconté leur vie, j'ai pas tout à dire et j'ai pas tout à clôturer. C'est un peu frustrant, mais c'est le jeu.
En fait, tu ouvres la voie à la fanfiction en faisant ça.
Ben, je pense. En vrai, oui. Voilà. Mais parce que j'en avais déjà parlé dans un podcast. Tiens, je me demande si c'était pas celui d'Élise. Je pense que c'est hyper important de nourrir la frustration de son lecteur et du fan en général, et en tant que fan, et qui a beaucoup travaillé sur comment les fans reçoivent les œuvres, c'est hyper important de créer de la frustration, de créer de l'attente et de pas tout donner. Il y a rien de pire que de tout donner et de tomber dans du fan service. C'est important de laisser des espèces de zones d'ombre et de petits lieux, de petits endroits dans ce qu'on écrit, ou des interstices où justement le fan peut aller se glisser et faire ce qu'il a envie. Tant pis si on est d'accord ou pas, là, c'est plus notre sort.
Oui, je suis assez d'accord là-dessus. Et c'est plutôt valorisant d'ailleurs quand un fan décide d'écrire de la fanfiction parce qu'il n'était pas d'accord ou parce qu'il voyait une autre fin. Parce qu'on sent, ça veut dire qu'il est tellement attaché à l'univers qu'il a envie d'y ajouter sa couleur.
Tout à fait. Je suis complètement d'accord, ouais.
Dis-moi, j'ai eu quelques questions des auditeurs, mais elles tournaient toutes autour du même sujet. Sache que les gens sont obsédés par une seule question chez toi.
Vas-y, c'est quoi, je suis sûre que je...
C'est quoi ton prochain projet? Ils veulent savoir.
Moi, je pense pas que ça allait être ça, parce que moi, j'ai reçu des questions MP et je me suis dit, bah, t'as dû recevoir les mêmes. Et moi, c'était sur le tome 4, c'était sur un couple en particulier où tout le monde me demandait est-ce que ce couple va se concrétiser. Et j'en ai reçu plusieurs, j'ai dit. Et donc, à chaque fois, je ne réponds pas et je me suis dit, oh là là, Margot, elle va recevoir aussi. Et puis en plus, Margot, elle a pas lu, elle va rien comprendre.
Non. Alors, soit quand j'ai regardé, il n'y avait pas encore eu ces questions-là de couple qui sont passées. Mais de façon générale, comme de toute façon, les auditeurs n'auront pas forcément lu, ce n'est pas la question à poser. Vous n'arrivez qu'à lire si vous voulez savoir qu'un couple se concrétise ou non. Bande de curieux. Non, ils veulent savoir ce que tu vas écrire par la suite, si tu as déjà un autre projet en préparation, et si ce sera encore du young adult ou si tu vas partir vers toute autre chose. Non, les gens veulent continuer de te lire, je pense, malheureusement.
Oh, flûte. Oui, j'ai décidé qu'en 2024, j'aimerais me lancer dans 2 projets qui ne sont pas signés. Et il y en a un, c'est un peu logique, parce que ça sera de la littérature pour adultes. J'aimerais tenter du thriller, voilà. Je crois que je ne l'ai jamais dit publiquement que c'était du thriller. Tu as une info en exclusivité,
j'adore,
je crois. mais pour le coup, il n'y a rien qui est signé, puisque ben, donc, moi, là, actuellement, je bosse avec Hachette Roman, qui est une maison d'édition sur du young adult. Et jeunesse et young adult, donc c'est pas du tout un projet qui les intéresserait, et j'ai pas spécialement cherché de maison d'édition, et je pense que j'ai envie un petit peu de revenir à, comment dire, une temporalité, un rythme où je peux écrire tranquillement avant de soumettre quelque chose sans avoir de deadline, sans, voilà. Juste j'écris dans mon coin et je repasse autant de fois que je veux. Et si j'ai envie de faire des pauses pendant 3 mois, et bien j'ai le droit et on n'a rien à me dire. Et voilà. Et l'autre projet que j'ai, par contre, là, c'est du young adult, qui sera encore du fantastique. Là, pour le coup, on restera dans de l'urban fantasy, hein, donc toujours de la magie, ou en tout cas du surnaturel dans notre monde à nous. Et là aussi, rien n'est signé, et tout simplement parce que c'est une envie, dans le sens où j'en ai pas parlé à Hachette Roman, parce que là aussi, j'ai envie de l'écrire.
Isabelle, écoute mes épisodes.
Eh bien, si elle entend, mais en plus, je crois que je lui en ai déjà parlé de ça, où je lui avais dit que mon prochain projet, je veux l'écrire dans mon coin, un peu en ermite, ne rien montrer. Voilà, personne n'est au courant. Et peut-être qu'un jour, je dirai « Surprise !» Et voici un beau pavé de 150 000 mots. Voilà, démerdez-vous avec ça. Et voilà. Tu vois, je pense que ça va se finir comme ça. Donc, j'ai deux projets en tête. En fait, j'en ai plein. Mais je suis un peu une stressée de la vie, une psychorigine. Donc, je me suis fait une espèce de, tu sais, de frise chronologique jusqu'en 2028 de ce que je voulais écrire.
Incroyable.
Mais il y a des choses qui se rajoutent, tu sais, au fur et à mesure où je me dis « Ah, ça, j'aimerais l'écrire avant ça. » Et donc, tu sais, ça repousse. Et bientôt, on sera en 2035 et j'aurai à peu près 15 projets que j'imagine. Parce que voilà, j'ai plein d'idées et où en plus c'est des idées que je veux vraiment exploiter. C'est pas juste des idées un peu comme ça. Non, c'est pour le coup des choses que je veux vraiment faire. Et donc là, il y a ces deux projets, un de pour ado toujours de urban fantasy et un autre de thriller pour adultes. Mais il y a rien qui est signé, il y a encore rien qui est posé sur le papier. Et vraiment, je les écrirai dans mon coin et peut-être que ça ne verra jamais le jour. Peut-être que aucune maison d'édition n'en voudra. Mais là, j'ai justement envie de les écrire d'abord pour moi, comme j'avais fait pour les Enchantresses. Sans enjeu, sans rien. Ça me manque, là, depuis ces trois dernières années. Et j'ai vraiment envie de renouer avec ça. Et j'en ai besoin aussi, je pense.
Je comprends tellement. Parce que, encore une fois, je raccroche, mais j'ai mon dernier tome que je suis en train d'écrire. Et il y a la question de l'après, et tout le monde me la pose. Et moi, mon cerveau réfléchit une saga à la fois. Je suis pas comme toi, je fais pas des trucs jusqu'en 2035. C'est incroyable. Je trouve ça impressionnant. Clara fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle a pas sa frise chronologique, mais elle a 8 idées de livres. Elle m'a dit, je vais les écrire. Et je sais qu'elle va les écrire. C'est assez, ça me paraît fou. Et il y a ce truc de chouette. Je vais me retrouver sans contrat signé. C'est à la fois terrifiant et incroyable de liberté. Et juste moi et mon clavier, et si j'écris de la merde, ce sera juste de la merde pour moi et ce sera trop bien et je suis trop contente. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis. Voilà.
Je pense que c'est une posture un peu de privilégié en vrai. De
oui, dire, en vrai.
Oh là là, pas de contrat, rien, c'est tellement chouette.
C'est
mais
vrai.
En vrai, ben, je vais profiter de ce privilège, je vais l'honorer et je vais essayer d'en faire quelque chose de bien. Voilà.
C'est ça. Mais de toute façon, on a fait un épisode avec Clara de écrire un roman déjà signé où on dit effectivement que c'est un privilège d'avoir son roman signé avant même qu'il soit écrit. Et c'est une très belle chose. Et ça rassure sur beaucoup de points et tout. Mais qu'en même temps, c'est une pression tellement énorme parce qu'on sait qu'on n'écrit pas le roman pour soi. On l'écrit déjà pour d'autres personnes. Et donc, c'est vrai qu'on perd un peu de cette innocence qu'on a face à un premier jet qui n'est écrit que pour soi.
Tout à fait. Très bien résumé, totalement merci. D'accord avec ton propos et celui de Clara, donc par extension.
Dis-moi, j'arrive à la dernière question de ce podcast qui est un peu une sorte de question signature. À chaque fois, tu dois donner 3 conseils. Et moi, pour moi, j'aimerais que tu me donnes 3 conseils pour écrire des jeunes adolescentes dans toute leur complexité, dans toute leur fièvre. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à un auteur ou à une autrice qui chercherait à écrire une adolescente ou un adolescent aussi, sans tomber dans le cliché, et pour donner cette illusion de réalisme, parce que crois-moi que Clara m'a bassinée avec tes livres, donc je ne les ai pas encore lus, mais elle m'a dit à quel point elle avait aimé tes adolescentes, donc je veux savoir ton secret.
Eh bien, Clara, si tu écoutes, merci. même si elle me l'a dit en vrai, hein, et ça m'a beaucoup touchée, tout le bien qu'elle pensait des Enchantresses. Alors, je vais dire un premier conseil un peu bizarre, et pourtant, il l'est pas, et c'est plein de, comment dire, de bienveillance en le disant, mais un ado, c'est bête. Un ado, c'est super... Alors, je sais qu'il y a plein d'adultes, parce que j'ai donc 29 ans, je le rappelle, et que souvent, j'ai des potes de mon âge qui me disent, quand on voit des ados, « Non, mais on n'était pas si bêtes. » Et moi, chaque fois, je leur réponds « Si, si. » Et même, je pense que parfois, on était encore plus cons. Et c'est important pour moi qu'on se rappelle qu'on a été super bêtes durant cette période et qu'on peut parfois l'être encore hein, d'une autre manière, parce que les adultes peuvent être très bêtes aussi. Mais on est super bêtes durant cette période parce que souvent, on croit tout savoir ou en tout cas, on veut tout savoir et que ça amène pas forcément toujours au bon choix. Et je pense que c'est pas grave. Et je pense que retranscrire la bêtise, ça a quelque chose de parfois un peu touchant, mais aussi de réaliste. Et donc, moi, j'ai déjà eu des gens qui me disaient, mais je comprends pas pourquoi elle a réagi comme ça à tel moment, par exemple Bleuhen. Et je dis juste, mais parce que elle est bête, parce que sur le coup, non mais c'est un personnage très sensible, très intelligent, mais sur ce moment, elle a été bête, genre vraiment, genre elle a choisi, mais elle a fait le choix qui n'était pas le choix le plus raisonné. Elle a fait un choix égoïste, un choix qu'une ado ferait, qui ne prend pas en compte tous les paramètres autour d'elle parce que elle a pas envie, parce qu'elle est elle est immature. Et voilà, moi aussi, quand on me dit oh là là, dis donc, elle est immature, Bleuen. Oui, elle a 16 ans. Oui, donc oui, il y a des moments où elle est immature. Et ce qui m'a confortée, c'est que, alors c'est marrant parce que c'est parfois des remarques que j'ai eues de lectrices qui pouvaient avoir à peu près, je sais pas, 18, 20 ans, et qui donc aussi peuvent être parfois assez exigeantes envers elles-mêmes, et qui donc vont se dire, je comprends que le personnage a pas fait le meilleur choix, et donc qui lui en veut, qui se dit, elle aurait pas dû faire ça. Alors que des adultes qui vont le lire et qui sont plus âgés vont être beaucoup plus dans la bienveillance, justement, parce qu'ils vont comprendre, ils vont dire, oui, elle est une ado. Et donc, une fois, je sais plus, où, voilà, on me reprochait, Bleuen, qui c'était un peu une tête de mule, et j'avais dit à mon père, Bleuen, tu trouves, toi, que c'est une tête de mule, qu'elle est insupportable et tout? Et il m'a juste répondu, c'est une ado, quoi. Voilà, parce que lui, il l'a été, il a vu ses enfants l'être, et donc il comprend que ses failles et sa fragilité et le fait de pas toujours être raisonnable, c'est une ado. Donc voilà, premier conseil, les ados sont bêtes et immatures parce que c'est des enfants qui deviennent adultes, mais donc ça se retranscrit. Il faut pas non plus en faire des tonnes, mais de temps en temps, c'est important de le rappeler, qu'ils font pas les bons choix, qu'ils calculent pas tout comme nous, que parfois le ratio risque-opportunité n'est pas très bien maîtrisé. Et pourtant, tout va bien se passer, parce que c'est comme ça qu'on apprend la vie. C'est comme ça qu'on fait des erreurs aussi, en étant bête. Donc voilà, le premier conseil. Le deuxième que je pourrais donner, alors là, ça va plutôt être un conseil féministe, c'est que je pense que c'est important de représenter les amitiés féminines beaucoup mieux qu'on l'a fait pendant des années. C'est-à-dire que c'est super, la romance et de parler des relations amoureuses, et c'est hyper important dans la construction de l'adolescence, mais l'amitié est aussi hyper important. Et l'amitié entre filles a été longtemps sous-évaluée ou utilisée comme un faire-valoir pour faire avancer des intrigues justement amoureuses, et c'est un peu dommage parce que je pense que il y a quelque chose à dire de cet amour qu'on s'est porté entre nous, qu'on a trop longtemps joué sur le fait d'être soi-disant rivales, ou en tout cas, si c'est le cas, puisque les filles peuvent malheureusement être très dures entre elles, on l'a pas remis en question, je pense, de la bonne manière, et je pense qu'on peut avoir une lecture féministe et rappeler que les filles peuvent s'aimer, alors d'un point, elles peuvent s'aimer amoureusement, mais elles peuvent aussi s'aimer profondément, amicalement, et que ça donne des très belles choses, et que, au contraire, on sait même être amis entre nous, et qu'on peut le valoriser, et que c'est une grosse part de notre adolescence, et que c'est important de le raconter aussi. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire avec Les Enchantresses, et moi, j'adore lire ça. J'adore lire des histoires sur des amitiés entre jeunes filles et entre jeunes femmes.
J'adore aussi.
Ouais.
Ah ouais. Quand un film, une série ou un livre décrit des amitiés féminines, j'accroche. Enfin, déjà, même les amitiés masculines très fortes, les amitiés très fortes, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et d'autant plus ces amitiés féminines parce qu'on les voit pas souvent. Donc, effectivement.
Alors, mais t'as raison, des œuvres sur les amitiés masculines, il y en a plein. Il y en a plein et on sait le faire. On sait honorer l'amitié masculine. Alors, l'amitié féminine, je trouve qu'on commence à effleurer le sujet, tu vois. On commence à se dire, ce sujet existe et on peut en parler, mais je pense qu'on a juste gratté la première couche et il y a tellement à approfondir et à creuser. Mais alors, le conseil que je vais donner, c'est quand on n'est plus une ado, mais qu'on veut écrire sur les ados, faut consommer ce que consomment les ados. Faut avoir cette curiosité. Et il y a des trucs qu'on va trouver pas très bien, alors que les ados nous l'auront conscient en disant, c'est du génie. Et t'es là en disant non. Et puis souvent, tu te dis, quand, en plus, quand tu es comme moi, amatrice de pop culture, tu fais oui, puis c'est pompé sur un truc d'il y a 30 ans qui était 1000 fois mieux. Donc regarde le truc d'il y a 30 ans. Et ils vont te répondre non, parce que ton truc d'il y a 30 ans, c'est un truc de vieux. Je ne veux pas le regarder. Et là, ça te frustre. Mais regarder, lire, écouter ce que consomment les ados, même si on a des a priori, parce que parfois on peut en avoir et c'est normal, parfois il y a des gaps générationnels, mais avoir cette curiosité, il y a des choses qu'on va adorer, il y a des choses moins, mais c'est pas très grave. Le but, c'est vraiment de rester curieuse et curieux pour comprendre les codes et se les réapproprier. et réussir en fait aussi à jouer avec les références qui sont les leurs et pas que les nôtres. Et comme ça, justement, tu vois, j'ai beaucoup parlé des références qui étaient importantes pour moi. Il y a des références aussi qui sont pas des références de ma génération, qui sont plutôt des références de la génération de ma petite sœur qui a 7 ans de moins et qui forcément a un âge beaucoup plus proche des lycéens et des lycéennes actuelles. Mais c'est hyper important d'avoir cette curiosité, de voir qu'est-ce qui plaît actuellement aux ados, pour pouvoir en fait le consommer et mieux s'aiguiller sur quelles sont leurs discussions, leurs aspirations, leurs goûts tout simplement. Et parfois on va faire des drôles de surprises. On va se dire ah c'est ça qui cartonne. Mais c'est là où tu te rappelles que toi à cet âge-là, t'aimais des trucs nuls, vraiment nuls.
C'est là où il faut se rappeler du point numéro un, les ados sont bêtes.
Oui c'est ça, tout à fait. Et puis il y a des trucs dont tu vas te rappeler effectivement quand t'étais voilà plus jeune et où tu vas te dire ah oui c'est chaud j'ai aimé ça. Ok bon on passe tous par là. Mais c'est ça qui est sympa.
Oui c'est vrai. Voilà. Merci énormément pour ces conseils. Je pense que ça peut aider effectivement parce que je crois que quand tu écris en tant qu'adolescent, tu écris comme si tu écrivais le chef-d'œuvre de ta vie. Tu donnes tout ce que tu as, toute ton âme, et tu as l'impression d'écrire un truc de fou. Et je pense qu'on passe tous par cette étape-là. Et je pense que c'est une étape merveilleuse où tu te prends beaucoup de claques quand les gens te disent que tu n'écrives pas un truc de fou, alors que toi, tu vois ça. Et tu perds un peu cette vision-là en grandissant parce que tu t'es pris des claques, justement. Et tu n'arrives pas toujours à retrouver cet état d'esprit où tu disais tout à l'heure que quand on est adolescent, on se croit invincible et c'est tellement vrai. Donc, merci énormément pour ces conseils. De façon générale, j'étais tellement contente de t'avoir avec moi sur ce podcast. Et d'ailleurs, si vous ne suivez pas Sophie, elle est toujours présente quand même sur Instagram et sur TikTok. Et je vous invite également à vous abonner à sa newsletter pour avoir des très longues nouvelles d'elle régulièrement dans le mois. Et c'est très, très chouette. Donc, je vous le conseille également. Et le dernier conseil, bah il y a le tome 4 des Enchanteresses qui sort dans quelques mois. Vous avez 3 tomes à lire comme moi, donc bon courage, il y avait des choses à faire. J'espère que ça t'a plu. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous, Sophie.
Ah bah c'était super, tes questions étaient hyper intéressantes.
Moi je vous dis en tout cas à très bientôt encore. Merci à Sophie d'avoir été là et je vous redis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va être extrêmement chouette aussi parce que en ce moment j'ai lancé des cartons d'invitation à des invités de folie. Et il faut croire que j'ai une bonne étoile puisqu'il y en a pas mal qui me répondent et qui acceptent de venir discuter avec moi et donc avec vous sur ce podcast. Donc encore merci. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à mercredi pour un nouvel épisode.